vais demander maintenant à Anna Metcalfe de nous rejoindre. Anna, vous êtes psychologue à l'Institut de la mémoire et vous travaillez sur les pensées qui nous freinent. Alors le terme technique, c'est les pensées dysfonctionnelles, les pensées automatiques. Et c'est vrai que chez les proches aidants, ça peut être un handicap pour bien vivre ou vivre le mieux possible cette période difficile avec un proche touché par la maladie. J'en profite pour dire juste un petit mot, on laisse les portes ouvertes, c'est pas pour vous embêter, je me doute qu'il y a des courants d'air, mais justement le but c'est qu'il y ait des courants d'air, c'est pour permettre un flux d'air et un renouvellement d'air. Alors par contre, s'il y a des personnes qui ont un petit peu froid parce qu'elles sont près des portes, il y a au-dessus quelques places qui sont à l'abri de ce courant d'air tout proche, et des places devant qui éviteront d'avoir les courants d'air dans le dos. Hein. Merci beaucoup de votre compréhension, c'est à vous.
Merci beaucoup Agnès et merci à la Fondation Recherche Alzheimer pour l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Nous sommes 6 psychologues cliniciennes dans l'équipe à l'IM2A. Nous travaillons avec les patients atteints d'une maladie Alzheimer ou apparentée et leurs proches aidants à chaque stade de la maladie en proposant des évaluations psychologiques, des suivis de soutien psychologique et des groupes. Et je vais vous parler aujourd'hui de la phénomène des pensées. À partir de notre expérience clinique d'équipe, les pensées qui peuvent être un outil important ou alors un frein dans notre adaptation face à la maladie. Et j'aimerais partager avec vous quelques idées et quelques stratégies qui se sont montrées bénéfiques pour les familles qu'on accompagne, justement pour composer avec les difficultés que la maladie présente. Alors, les pensées. Les pensées s'expriment souvent sous la forme d'une sorte de monologue intérieur, cette petite voix interne, ou alors d'image mentale, et elles vont avoir des contenus très divers à propos de soi, les autres, l'environnement, l'avenir. En général, nos pensées se déclenchent de manière automatique et incontrôlable. Vous avez peut-être remarqué qu'à certains moments, nos pensées sont très apparentes, accessibles. J'aime cette chanson ou ce film m'ennuie. Alors qu'à d'autres moments, on est beaucoup moins conscient du contenu de nos pensées. Toutefois, elles sont toujours là, nos pensées, parce qu'en fait, nos cerveaux sont comme une sorte d'usine de la pensée qui produit à tout moment un flux d'idées, ce que le psychiatre Christophe André va appeler les bavardages incessants de l'esprit. C'est-à-dire que dans toute situation de notre quotidien, plusieurs facteurs sont en jeu. Nous avons la cognition, ce qu'on pense. On va aussi éprouver des émotions, ce qu'on ressent. Et ces deux facteurs vont influencer notre comportement, notre réaction dans la situation. Prenons un petit exemple. Vous marchez dans la rue et de l'autre côté de la rue, vous voyez un bon ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais cet ami-là ne vous salue pas et continue sur son chemin. Qu'est-ce que vous vous dites? Quelle est la pensée que ça vous provoque? On peut imaginer parmi nous différentes réactions, de simplement « il ne m'a pas vu » à « il a l'air pressé, peut-être qu'il n'a pas pu s'arrêter » ou alors « est-ce qu'il m'évite, est-ce qu'on est fâché ?» Et de chacune de ces pensées différentes va écouler une émotion et donc un comportement différent. « Il ne m'a pas vu », on peut imaginer un ressenti plutôt neutre, alors que « est-ce qu'il m'évite ?» On peut imaginer se sentir un petit peu vexé, troublé, et peut-être même être plus tendu avec cet ami la prochaine fois. Ce petit exemple pour nous montrer que nous sommes en fait à tout moment en train de construire des histoires autour de ce qu'on observe, autour de ce qui se passe. Et ces histoires, ces interprétations de notre environnement sont puissantes parce qu'elles vont influencer nos émotions, notre comportement et donc nos relations avec les autres. En effet, nos pensées, du coup, ils peuvent avoir cet effet moteur ou alors un effet frein. On a des pensées qui nous mobilisent. Ce plat va être bon, je vais me sentir bien après mon séance de sport. La pensée qui nous freine, j'ai l'air ridicule, qu'est-ce que les gens vont penser? Des pensées qui nous rendent impuissants, je n'y arriverai pas. Ou alors qui nous isolent, je n'ai pas le droit de parler de ma vie privée, je ne peux pas parler aux autres. Dans le petit dessin à droite, on a le personnage Charlie Brown qui voit de loin ses deux amis discuter. Et puis, il entend des rires et Charlie se dit « Ah, ces pestes, elles se moquent de moi », ce qui va entraîner son comportement de s'éloigner, de s'isoler. alors que ce n'était pas le cas. Un psychiatre américain dans les années 60 et 70, Aaron Beck, a développé la théorie des pensées dites dysfonctionnelles pour définir ces pensées qui sont fixes, assez rigides dans le temps, moins rationnelles et moins stables, moins réalistes, qui nous empêchent un affrontement adapté à différentes situations. Ces pensées dysfonctionnelles peuvent se formuler comme des règles, je dois, des attitudes, ça serait terrible si, ou alors des expressions conditionnelles, si les autres font X, alors moi, X. Pour ce rhinocéros peintre, on voit que sa vision sur le monde, sa prisme de vue, l'empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est un petit peu ça l'effet des pensées dysfonctionnelles, c'est qu'elles peuvent nous enfermer dans une vision rigide des choses, ce qui nous enlève notre créativité, notre flexibilité pour chercher des solutions aux difficultés qui se présentent. Et ce pourquoi les pensées dysfonctionnelles sont l'une des cibles principales de la thérapie cognitive et de la thérapie ACT dont je vais parler un petit peu plus tard. Parlons maintenant de ce phénomène chez les aidants. Un psychologue espagnol, Losada, a étudié les pensées dysfonctionnelles présentes dans une population d'aidants d'un proche malade d'Alzheimer. Et il a vu que dans ce contexte particulier, les pensées dysfonctionnelles impactent la façon de recevoir de l'aide et du soutien social, et également les stratégies de l'aidant pour affronter la situation. Pour Losada, les pensées dysfonctionnelles vont agir sur le stress de l'aidant de trois façons. Sur leur interprétation du comportement de la personne malade, avec des pensées comme « il pourrait faire un effort, il sait mieux faire », sur leur perception du besoin de soutien, des pensées comme « personne ne sait s'occuper de mon proche aussi bien que moi » ou « il faut que ça soit la famille qui prend soin de lui ». Et troisièmement, ces pensées peuvent provoquer une sorte de négligence personnelle, voire un oubli de soi. Des idées comme « un bon aidant ne doit jamais s'énerver, n'a pas le droit à l'erreur, doit toujours être de bonne humeur ». Les répercussions de ces pensées dans une population d'aidants, au niveau émotionnel, on a bien sûr plus de colère, plus de tristesse entraînée par ces idées, et notamment de la culpabilité pour à investir un temps de loisir et ses intérêts à soi. Mais également, à un niveau comportemental, ces pensées vont freiner la recherche d'aide extérieure, limiter l'acceptation de soutien et, comme on a vu, entraîner cette négligence de ses propres besoins. Ce qui mène malheureusement, comme on sait bien, à des situations de fatigue chronique, voire de l'épuisement, et de l'isolement du couple aidant-aidé. Et la présence de ces idées dysfonctionnelles est également liée à un niveau plus important de stress, d'anxiété et de symptômes dépressifs chez les aidants. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Vous saviez probablement déjà que nous pouvons avoir des idées plus ou moins aidantes, plus ou moins utiles. Je vous propose un petit exercice. Je vais vous inviter à fermer vos yeux et je vais vous demander de ne pas penser à un éléphant rose. Alors concentrez-vous bien et surtout ne pensez pas à cet éléphant rose. Bon, merci d'avoir joué le jeu. Vous pouvez vous réouvrir les yeux. C'était peut-être pas si simple finalement. On voit qu'en général, essayer de se débarrasser d'une idée précise nous amène généralement à y penser plus fréquemment. Donc, quelles sont les stratégies efficaces pour composer avec les pensées qui nous freinent ? Je vais d'abord parler un petit peu de comment identifier ces pensées et ensuite vous présenter deux axes thérapeutiques. Donc, la première étape s'agit d'être en mesure d'observer ses propres pensées. L'idée n'est pas de les chasser, mais de les mettre en lumière. Et pour ce faire, nous devons prendre un rôle d'observateur sur nos pensées, plutôt que celui qui les vit. Donc, il s'agit simplement de s'arrêter et écouter cette petite voix interne. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Comment elle me parle ? Est-ce qu'elle est gentille, critique ? Et ça peut être particulièrement intéressant à faire lors d'une émotion forte ou une réaction importante ou inhabituelle. Qu'est-ce qui me traverse l'esprit ? Qu'est-ce que je ressens ? Une fois qu'on a attrapé, identifié cette pensée, on peut l'interroger
Est-ce que c'est bien une vision réaliste des choses? Est-ce que je vois des biais dans mon interprétation? Ou alors, est-ce que cette pensée, elle m'appartient réellement? Ou s'agit-il d'un discours dans la société ou dans ma famille que je m'impose? On peut simplement aussi se demander, cette pensée-là, est-ce qu'elle m'aide pour avancer? Et donc, ça pourrait être intéressant pour vous qui sont présentes à cette journée de vous interroger sur votre discours interne par rapport à la maladie aujourd'hui, par rapport à l'avenir, à vos besoins et aux aides. Dans cet axe-là, notre même psychiatre de tout à l'heure, Beck, a développé une technique qui s'appelle la restructuration cognitive, la première axe thérapeutique que je voulais partager. Alors, la restructuration cognitive cherche à nous aider à assouplir nos croyances et nos idées. On travaille sur des situations précises à travers 5 colonnes pour d'abord mettre en évidence les émotions et les pensées déclenchées par la situation de façon un peu automatique. Et ensuite, on travaille pour assouplir ces réactions en cherchant ce qu'on appelle une pensée alternative et on voit si ça nous permet un autre ressenti affectif. Donc on prend l'exemple de Monsieur M qui est un aidant que j'accompagne. Sa femme est atteinte d'une maladie d'Alzheimer jeune. La situation pour Monsieur M, c'était dès le petit déjeuner, je me dispute avec ma femme. Ce qui engendre pour lui de la frustration, de la tristesse. Et on a vu que la pensée qui lui traverse l'esprit à ce moment-là, c'était « on ne s'aime plus, on voit droit dans le mur ». Donc des idées vraiment dépressogènes et assez générales pour lui. Et lorsqu'on a essayé de voir s'il est possible de voir cette situation autrement, M. M a pu formuler l'idée « c'est vrai qu'il est difficile pour nous de composer avec les oublis et on fait de notre mieux ». Et rien que de formuler cette idée lui a permis un certain apaisement et une certaine réassurance. Je vous donne un autre exemple, cette fois qui concerne plutôt le patient, une femme atteinte d'une aphasie primaire progressive, ce qui lui donne des troubles de langage. La situation qui lui provoque de la souffrance pour elle, c'est « je cherche mes mots, je bafouille », ce qui lui fait ressentir de l'anxiété, du découragement et même de la honte par moment. Et ces pensées automatiques sont « je suis nulle, j'ai l'air ridicule », des pensées de dévalorisation. Lorsqu'on a travaillé pour formuler une pensée alternative, elle a pu se dire « tout le monde a le droit à l'erreur, personne n'est parfait ». Et plus loin dans notre discussion, elle a pu même me dire « ce n'est pas parce que je cherche mes mots que je ne sais rien faire ». Donc on a vu que cet exercice lui a permis de relativiser, de diminuer finalement son anxiété de performance et d'adopter plus de bienveillance, une attitude d'auto-bienveillance. Alors, quelques astuces pour nous permettre de sortir de notre prisme de vue et de penser différemment. Parce que souvent, on passe toute une vie à penser d'une certaine façon. Ça peut être assez rigide et il nous faut parfois des outils pour assouplir ces réflexes. Un premier, c'est la notion de la décentration, simplement de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Par exemple, on peut se demander « qu'est-ce que ma mère amie me dirait à ma place ?» Ou alors « qu'est-ce que mon proche malade ?» dirait s'il me voyait dans cette situation. On a aussi la notion de faire le procès à l'idée, c'est vraiment de chercher les preuves, les faits concrets pour et contre notre idée, comme en adoptant la posture d'un juge lors d'un procès. Un deuxième axe thérapeutique que je voulais partager aujourd'hui ne nous encourage pas autant à modifier nos pensées qu'à adopter une attitude d'acceptation, de faire avec elles. Il s'agit de la pleine conscience, ou mindfulness en anglais, où on va porter notre attention intentionnellement au moment présent, sans jugement et avec bienveillance. Et l'entraînement, la pratique de la pleine conscience, nous permet d'observer nos pensées et au fur et à mesure de mieux les accepter, et ainsi ce qu'on appelle une diffusion cognitive, c'est-à-dire qu'on est moins collé à nos pensées, on arrive à prendre du recul. Ces techniques ont montré leurs preuves dans plusieurs domaines de la santé pour réduire l'intensité de la détresse et des troubles psychologiques, notamment dans des populations d'aidants. Alors on peut pratiquer la pleine conscience de façon formelle, dédiée un temps à la méditation, ou alors de façon informelle, à tout moment de notre quotidien. Là, il s'agit simplement de se reconnecter à l'ici et maintenant, à ce qui se passe et à nos sens, et d'observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Dans la pleine conscience, on se sert souvent de métaphores ou d'images, justement pour trouver cette posture d'observation sur nos pensées et de ne plus être celui qui les vit. Par exemple, l'image de nos pensées comme des nuages dans le ciel qui vont défiler et changer de forme devant nous, ou alors comme des voitures sur la route qui vont passer devant nous, mais on n'est pas obligé de prendre leur chemin. On a aussi simplement la notion « j'ai la pensée que ». Voyez-vous la différence entre « j'ai la pensée que je ne suis pas à l'auteur » et « je ne suis pas à l'auteur ». Cette petite phrase que j'ajoute me permet de voir ma pensée pour ce que c'est-à-dire une pensée et non pas un fait, ce qui me permet de moins l'écouter et de moins y croire si elle me freine. Donc, juste pour être clair sur les objectifs de ces différentes approches thérapeutiques, le but n'est pas de ne plus jamais avoir de pensées dysfonctionnelles. Ça serait complètement irréaliste, on les aura tous toute notre vie. Le but n'est pas non plus de ne jamais éprouver des émotions difficiles ou de toujours positiver. C'est simplement de pouvoir nous libérer de certaines pensées qui ne nous servent pas, qui nous freinent, soit en les reformulant par la restructuration cognitive, soit en prenant du recul par rapport à elles, par une pratique de pleine conscience. Et donc je vous invite à voir à différents moments de votre quotidien d'écouter cette voix interne et de voir ce que vos pensées vous poussent à faire dans certaines situations. Et vous allez progressivement identifier les moments où votre esprit produit une histoire qui vous permet d'avancer ou alors qui vous freine dans votre adaptation à la maladie. Je voudrais conclure avec cette simple idée, mais idée parfois radicale. S'il vous plaît, ne croyez pas à tout ce que vous pensez. Et d'une citation d'une psychologue, Tara Brach, qui est une formatrice aussi en méditation. Nous sommes trop près de nos pensées, on les prend comme des faits, comme la vérité. S'arrêter, observer nos pensées, particulièrement une qui provoque de la détresse, qui nous bloque, qui maintient de la colère, peut s'avérer un outil puissant. Je voulais juste vous laisser quelques références sur ce dernier slide pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Notamment en haut, vous avez le site Rhapsody. C'est un site internet que notre équipe a développé à destination des aidants de patients jeunes. Vous allez trouver plein d'informations différentes, médicales, sur les aides sociales et aussi des stratégies pour prendre soin de soi dans le rôle d'aide. Et vous avez d'autres ressources sur la méditation, des apps, des livres et des exercices en ligne. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Anna Metcalf. C'est des conseils utiles pour accompagner un proche touché par la maladie, mais finalement utiles dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Et vous les avez vraiment expliqués de façon très claire. Arrêter de se culpabiliser, accepter d'avoir des limites, être un petit peu humble et puis ne pas se monter comme ça un objectif excessif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à me les passer. C'est vraiment votre conseil en consultation.
Oui, tout à fait. Ces exercices de réexaminer ses pensées, juste une parenthèse, il ne s'agit pas bien sûr de les retravailler pour la moindre de nos pensées, mais vraiment dans ces moments où on est en souffrance ou anxieux, de voir si dans ces situations, les pensées ne viennent pas majorer notre difficulté et notre souffrance.
Merci beaucoup. Je voudrais en profiter pour glisser un mot. La semaine dernière, nous étions aux entretiens Alzheimer de Lyon et nous avons accueilli l'association Bulder Répit, qui est une association qui est présente dans presque toute la France et qui propose justement des parenthèses pour pouvoir reprendre des activités personnelles, libérer les proches et qui démontrait ce que vous venez de nous expliquer, ce bonheur d'avoir une relation avec quelqu'un de l'extérieur qui vient passer quelques heures ou quelques jours à la maison. On reste dans son cadre, mais on vit d'autres choses et l'aidant peut à son tour vivre des choses pour lui. Et c'était vraiment très complémentaire, cette association Bulder Répit, très intéressante pour les personnes qui ont besoin d'air, parce qu'on a tous besoin d'air, même quand on est très présent avec un proche touché par la maladie. Merci beaucoup.
Merci.
Anna Metcalf.